Bonsoir. Au moins 17 personnes ont été tuées mardi dernier par des présumés rebelles ADF à Minibo et Mutsonge, deux quartiers situés au nord-est de la ville de Beni dans le nord Kivu. En réaction à ces massacres, la société civile de Beni déplore ce qu'elle qualifie de négligence de la part des FRDC et des troupes de la MONUSCO, dont les bases, d'après elle, sont situées non loin des lieux des massacres. Comment analyser ces énièmes massacres? Nous en parlons avec Bernard Amissi Kalonda. Il est administrateur du territoire de Beni. Bonsoir, monsieur l'administrateur du territoire Bernard Amissi.
Bonsoir, monsieur.
Révérend pasteur Gilbert Kambalé, il est président de la société civile de Beniville, au nord Kivu. Bonsoir, monsieur le révérend pasteur Gilbert Kambalé.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et Joseph Yumbu, analyste politique et expert en question de sécurité, il est aussi ambassadeur de paix. Bonsoir monsieur Joseph Yumbu.
Bonsoir monsieur Guy Maté, cher collègue du journaliste.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Encore des civils massacrés dans les territoires de Beni au nord Kivu. Au moins 17 personnes ont été tuées par des présumés ADF la nuit dernière à Minibo et Mutsonge, deux quartiers de la localité de Bangachuluna, situés à près de 60 km au nord-est de Beniville. Le porte-parole des opérations Sokola 1 confirme cette attaque. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
Pendant environ 4 heures, soit de 17h à 21h, ces rebelles ont opéré en toute quiétude à Minibo et Mutsonge, disent les sources locales. Ils ont infiltré les deux quartiers de la localité de Baungachuluna avant de s'attaquer aux populations civiles dans leurs maisons, ajoutent ces sources qui soulignent que les assaillants ont utilisé des machettes, visiblement pour ne pas alerter les FRDC et la MONUSCO basées dans la région. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1, au cours de cette incursion, ces présumés ADF ont abattu au moins 17 personnes, parmi lesquelles 10 femmes et 5 enfants. Le lieutenant Mac Azukai, qui parlait encore des bilans provisoires, précise que l'information relative à la présence des présumés ADF dans les alentours de la localité de Baungachuluna est parvenue avec retard au FRDC. Selon d'autres sources militaires, le général-major Étienne Kasereka, commandant adjoint en charge des opérations dans la 3e zone de défense des FRDC, est depuis ce matin à Baungachuluna. C'est pour évaluer la situation et prendre les dispositions qui s'imposent pour protéger les civils. Signalons que ce nouveau massacre intervient après un mois d'accalmie dans les territoires de Beni. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Le gouverneur du Nord Kivu annonce l'installation provisoire du comité provisoire des sécurités à Beni, où il est arrivé ce matin. Selon Julien Paluku, l'objectif est de s'associer aux autorités locales et envisager des stratégies durables pour protéger la population du territoire de Beni. Il souhaite que la population continue à faire confiance au FRDC et à la MONUSCO qui travaillent ensemble pour la pacification de la zone. La MONUSCO va intensifier ses actions militaires contre les ADF et les auteurs des attaques contre les civils dans les territoires de Beni. C'est le commandant adjoint de la force de la MONUSCO qui l'a annoncé ce mercredi à partir de Beniville, où il est arrivé pour évaluer la situation sécuritaire après les nouveaux massacres d'une dizaine de civils. Selon le général Jean Bayou, parmi les auteurs de cette attaque se trouvaient les femmes et les enfants. Il le dit au micro de Papi Martial Mukeba.
J'ai bien sûr décidé de centrer d'abord de manière prioritaire ma visite sur Eringeti, où je me suis rendu donc quelques heures après ce nouveau massacre. Nous avons malheureusement compté 17 morts, dont je crois une dizaine de femmes et au moins 3 enfants. Donc c'est un bilan très lourd, ce sont des innocents, c'est des actions absolument condamnables. La sauvagerie de l'attaque, je pense que c'est d'abord ça qu'on doit avoir à l'esprit. Ce que j'ai vu aussi, c'est que ADF utilise toutes les techniques effectivement pour commettre des crimes et déjouer éventuellement l'action de nos forces armées. Ils attaquent à la tombée de la nuit, ils attaquent dans des maisons qui sont en bordure de la forêt, ils sont en uniforme des FRDC. Il y avait aussi parmi les attaquants femmes et enfants. Nos actions contre ceux qui commettent des crimes, contre ces responsables, non seulement ne vont pas s'interrompre, mais vont s'intensifier et nous allons les combattre.
Bernard Amissi Kalonda, je rappelle que vous êtes administrateur du territoire de Beni. On ne cessera jamais de vous poser cette question. Comment vous expliquez ces nouveaux massacres? C'est la énième fois qu'on vous pose ce genre de questions.
Ok. Avant d'entrer dans les vifs ou donner la situation, il faut retenir que la situation sécuritaire du territoire de Beni, surtout sa partie du secteur Beni-Mbau, groupement Bambou-Bakissiki, village Baunga-Chuluna, vient de connaître encore une fois une incursion des ordres de Funalu la nuit du 3 au 4 mai 2016, précisément le village de Minibo et Boutongue. Nous confirmons qu'il y a eu 21 personnes tuées, dont 3 femmes enceintes, donc ça nous amène à 24 corps. Plusieurs personnes portées disparues, donc au moins 13. Bon. Pour l'administration du territoire de Beni, c'est une surprise désagréable, en dépit des efforts conjugués de tout le monde, les FARDC, population amère, des jeunes, les partenaires MONUSCO. Voilà, vraiment c'est une surprise. Nous regrettons beaucoup. Pourtant, la situation venait d'être maîtrisée depuis plusieurs mois, de janvier à nos jours. Si on a eu des attaques, l'ennemi ne pouvait pas retourner sans abandonner ses corps, ses cadavres. Bon, la population a même apprécié dernièrement le travail des FARDC. Rapidement, son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Province, vient d'arriver au chef-lieu du territoire de Beni pour écouter, comprendre cette énième incursion à Iringuiti,
Monsieur...
accompagné de ce responsable militaire, troisième zone de défense, responsable des services spéciaux. Voilà, nous avons vraiment un regret. Bon, cela est arrivé, vous savez. L'ennemi a utilisé une diversion. Et au même moment, l'ennemi tuait la population. Et les FARDC se battaient en progression vers des coins comme Makolova, Makembi, très loin là-bas. Voilà, les fonds étaient vraiment partout. Et il a profité cet endroit qui l'a jugé facile de...
Monsieur Amissi Kalonda.
Qui a tué des gens. Voilà la situation que nous avons. Mais dans le territoire, il n'y a que les deux groupements, le groupement Bambou-Bakissiki et le groupement Banane de Kainama, où nous avons, ces derniers temps, vraiment des situations. C'est le cas lorsqu'on avait perdu à l'époque, les mois passés, dans le groupement Kainama. Là, on avait brûlé, incendié une école, les populations étaient vraiment tuées. Voilà, c'est ça
monsieur,
la situation.
Monsieur Amissi,
le reste de
Monsieur Amissi Kalonda, oui, vous évoquez, vous dites, vous venez de regretter une fois de plus l'incursion des ADF dans Beni. Pourquoi vous continuez à utiliser le terme incursion? Est-ce qu'ils ne sont pas dans les territoires de Beni? Pourquoi vous parlez d'incursion alors qu'on sait qu'ils opèrent à partir de Beni, ils sont dans les territoires de Beni? Pourquoi vous utilisez le terme incursion comme s'ils viennent d'ailleurs?
Bon, vous savez, les ADF Nalu ne restent pas dans les agglomérations. Les ADF sont en progression dans les parcs. Vous savez, les parcs sont des endroits où il n'y a pas de population. Et c'est après qu'il y a eu dernièrement plusieurs bombardements des FARDC avec son allié MONUSCO, mais l'ennemi a quitté les parcs, ces endroits-là très loin, Moutara, très loin, et venir chercher, créer de tueries dans ce village.
Monsieur Amissi,
nous prenons comme une incursion, des incursions. Ils viennent, ils cherchent là où ils peuvent dévorer, tuer des gens.
Oui, c'est énième massacre intervient une semaine après que les autorités, tant civiles que militaires, aient affirmé que la situation sécuritaire s'est considérablement améliorée. Peut-on dire que ces tueries contredisent les propos de ces différentes autorités?
Bon, voilà, je ne partage pas ces points de vue. Vous savez, la situation reste toujours volatile. Comme c'est une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre comme les FARDC à l'époque avec le M23. Mais la guerre que nous avons ici, c'est vraiment des terroristes. On ne sait pas, ils ne sont pas localisés dans un endroit. Voilà, ils cherchent à tuer des civils, comme ils n'ont pas une puissance, une force de s'attaquer aux FARDC. Voilà, ils sont passés vers la partie d'Angatulouma où il n'y a même pas. On ne s'attendait pas à cet endroit. Voilà. Et vite, on les a repoussés. Je crois
merci.
Ce n'est pas que nous devons dire qu'il y a eu il y a quelque chose, une faiblesse, effectivement.
Merci, Monsieur Bernard.
On ne peut pas
à Monsieur Kalonda.
Discréditer ou dire que les FARDC n'ont pas fait le travail, même les autorités. C'est de même, c'est une guerre très compliquée.
Merci, on a
une
compris.
Une guerre des terroristes. Voilà, on ne peut pas directement.
Merci, monsieur l'administrateur du territoire. Révérend pasteur Gilbert Kambalé, vous êtes président de la société civile de Bénéville, au nord Kivu. Tout de suite après ces énièmes massacres, vous avez réagi, donc la société civile du nord Kivu a réagi, et vous avez accusé, n'est-ce pas, les FARDC ainsi que la MONUSCO des négligences. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qu'est-ce qui vous pousse à dire que la MONUSCO et les FARDC ont négligé, n'est-ce pas, en fait, n'ont rien fait, n'est-ce pas, pour protéger la population?
Merci beaucoup pour la parole et merci beaucoup également pour l'invitation. Je tiens d'abord à présenter, au nom de la société civile, nos condoléances, les plus attristées à toutes ces familles qui ont été éprouvées. Et donc, nous pensons qu'il y a quand même certains facteurs déterminants qui a poussé la société civile à dire ce que vous venez de répéter. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur le fait que le gouverneur est arrivé, nous apprécions cela, et la rapidité avec laquelle il est arrivé, nous apprécions cela. Et également, le général-major Jean Bayot, également, est arrivé. Par ailleurs, nous estimons que cela ne suffit pas. Nous aurions voulu que le ministre de la Défense puisse aussi être ici sur le lieu, le chef d'état-major puisse arriver, et même pourquoi pas le ministre de l'Intérieur. Je vous dis que à ce jour, on est à 911 morts. Parce que le lundi dernier, nous étions à Butembo, toutes les coordinations du Grand Nord, et les morts de Bénéville, le territoire, étaient à 894. Aujourd'hui, on est à 911. Et donc, vous comprenez que si nous donnons aussi les chiffres de l'Obéro, nous arrivons à plus de 1300 personnes tuées.
Monsieur Gilbert Kambalé,
nous estimons qu'il est inacceptable que une population puisse être décimée au moment où il fallait faire un effort supplémentaire par rapport à ce qui se passe. Alors ça, je voulais vous donner juste le nombre de morts, mais sans compter les personnes kidnappées.
Voilà, tout cela est contenu, Monsieur Gilbert Kambalé.
Nous pensons qu'il y a des personnes qui sont mortes, mais dont on n'a jamais retrouvé le corps. Et là, nous parlons des chiffres noirs de ces massacres, donc le nombre est tellement élevé. Alors, pour revenir à votre question, je, sans parler également
de la négligence, de la
et des études de santé, des écoles, ainsi de suite, pour revenir à votre question, M. Guy Maté, j'aimerais dire ceci. Il a été dit que les gens de la MONUSCO étaient à peu près à 300 mètres. Le FRDC, on ne sait pas à combien de mètres ils étaient exactement. Mais nous estimons que ce qui devait être fait immédiatement, en fait, une enquête pour prouver les responsabilités des uns et des autres. Là, je parle de la MONUSCO et même de FRDC.
Alors, vous, avez...
vous comprenez qu'il est quand même nécessaire qu'on fasse cet exercice-là. Si on ne le fait pas, intérieurement, je ne sais même pas si on l'avait déjà fait, peut-être qu'en faisant des secrets militaires, mais je pense que c'est la première chose qu'on devait faire. Et là, quand on détermine maintenant les responsabilités, on peut dire qui a fait quoi et il n'a pas fait ce qu'il devait faire.
Mais si je vais
t'emballer, il y a eu également des rumeurs, on ne peut pas négliger les rumeurs sur le plan sécuritaire. Il fallait donc arriver à précéder les événements au lieu de les subir. Donc, nous estimons que si les rumeurs étaient là et que la population a toujours collaboré avec le FRDC, on devait prendre en compte ces rumeurs-là qu'on puisse prendre des dispositions afin de contraindre l'ennemi et même de pouvoir l'empêcher de tuer la paisible population.
Vous avez suivi l'enquêteur de l'histoire. Vous avez suivi Monsieur Kambalé. Vous avez suivi Monsieur l'entretien du territoire de Beni qui dit que les assaillants ont utilisé une diversion. Ils ont attaqué les différentes localités et lorsqu'ils savaient que les FRDC étaient en train de se débattre plutôt ailleurs. Est-ce que vous ne croyez pas à ce que Monsieur Kalonda vient de dire, la diversion utilisée par les assaillants?
Mais moi, je crois que ça, c'est très grave, parce que je trouve, en fait, le discours par rapport à ce point-là, un discours creux et incohérent de la part de l'administrateur du territoire. Comment on peut parler de diversion? Alors, que doit faire l'armée? Les techniques militaires, les stratégies militaires? On doit déjouer aussi le plan de l'ennemi. Et donc, quand on trouve qu'il y a de telles choses, alors il y a des questions qu'on doit se poser.
Alors,
on a 4 heures, vous imaginez, de 17h à 21h, on est en train de tuer les gens. Il n'y avait pas seulement des armes blanches, mais quand vous suivez le témoignage d'un enfant de 6 ans dont la mère a été hachée, il parle de coups de balle. Donc, je crois que si un militaire attend qu'il y a des coups de balle telle part, je crois que la première chose, c'est peut-être d'y aller et de voir ce qui se passe.
Alors, comment vous expliquez la persistance de ces phénomènes Pourquoi l'on n'arrive toujours pas à défaire ces ADF?
Oh, mais je crois que nous ne pouvons pas minimiser les efforts des FRDC, ça c'est un. Et nous regrettons parce que nous avons perdu beaucoup d'hommes, de troupes, seulement sous le drapeau dans cette guerre. Mais on peut parler de la guerre asymétrique. Mais la guerre asymétrique, je pense qu'on peut aussi la vaincre. Et donc, si ça persiste, c'est que nous avons toujours estimé que on n'a jamais fait des enquêtes fouillées et approfondies par rapport à tout ce qui se passe ici.
Merci.
Vous imaginez, c'est depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à ce jour, on est à ces chiffres-là.
Merci, M. Kambalé.
Inquiétant.
Merci, Monsieur Kambalé. Joseph Yumbu, vous êtes analyste politique et expert en question de sécurité. Vous êtes ambassadeur de paix. 2 ans pendant lesquels les populations civiles sont massacrées à Beni, sans que l'on neutralise les auteurs de ces massacres. Comment vous analysez ce phénomène?
D'abord, en tant qu'ambassadeur de paix, je condamne la sauvagerie de l'attaque. Ensuite, en tant que patriote, je présente mes condoléances aux familles éprouvées. En tant qu'analyste, j'ai suivi ce que les autres prédécesseurs ont dit pour moi, d'emblée, je dis qu'il n'y a pas de guerre. La paix a été difficilement retrouvée dans ces coins après les aventures de M23. Le chef de l'État, ses services, l'armée, nous avons tous suivi. Ils ont combiné, conjugué leurs efforts pour remettre la paix dans ces coins-là. D'ailleurs, pour preuve, moi-même, en tant que président d'Inas Bell depuis l'Europe, j'ai dû envoyer 840 kilos de médicaments à Béni en 2002. L'ambassadeur Kisonga de Bruxelles peut témoigner. On parle, non seulement je dis qu'il n'y a pas de guerre, on parle de diversion. Vous reprochez à l'armée et à la MONUSCO de ne pas pouvoir savoir ce que c'est une diversion. Mais d'abord, il faut suivre ce que la MONUSCO a comme mission sur place. La MONUSCO ni le FARDC ne sont pas là pour fouiller les militaires ou les civils, plutôt les infiltrés ou les nationaux qui sont en civil. Mais je pense qu'il y a plutôt question ici de renforcer les services de sécurité. Je peux citer énormément la DEMIAP, la DGM et l'ANER. Il faut leur donner beaucoup de moyens. Je suis un ancien coordonnateur de ces services, je suis un peu comment ça se passe dans le monde. Il faut donner beaucoup de moyens à nos services de sécurité. Je cite l'ANER. Parce que eux, ils sont bien préparés. Et ce sont des gens formés. Dès qu'ils ont les moyens, ils peuvent, en 3 mois, je dis bien 1, 2, 3, en 3 mois, mettre hors d'état de nuire ces compatriotes délinquants qui sont drogués et qui n'arrivent pas à comprendre qu'on ne peut pas tuer comme ça femmes et enfants à une journée. Les militaires en uniforme interviennent souvent lorsque, je crois, le cas de la MONUC, ils ont en face d'eux des hommes organisés. Mais vous dites
lorsqu'il s'agit d'une guerre classique.
Et, exactement. Mais vous parlez de diversion, ils doivent le suivre. Je vous dis que les terroristes, j'ai étudié ce domaine-là, ils ont une autre façon d'opérer qui peuvent échapper.
La guérilla.
La guérilla a échappé.
Mais pourquoi on sait depuis plus de 2 ans, n'est-ce pas, que ces assaillants, ce que vous appelez terroristes, procèdent par cette technique, c'est la guérilla. Mais pourquoi on ne peut pas, n'est-ce pas, chercher à mettre en place des unités au sein de la MONUSCO et au sein de la FARDC, des unités qui puissent s'adapter, n'est-ce pas, à ce genre de techniques?
Non, il faut que chaque service puisse respecter sa mission. Il ne faut pas demander à MONUSCO et au FARDC d'aller fouiller les gens qui se promènent librement dans une région où la paix a été rétablie. J'ai dit bien, j'insiste, l'ANER ne fonctionne pas en uniforme militaire ou la DGM qui doit contrôler la frontière dans les cas où on dirait que ce sont des infiltrés ou ils ont fait l'inscription. Puisque, oui, une grande partie de ce que j'ai entendu, ces gens viennent de l'intérieur même de Béni et alors il faut leur poser. J'ai dirigé pendant 2 ans ces services. Je sais de quoi je parle. Je suis des rares chefs de sécurité de ces pays qui se promènent sans armes, qui se promènent à l'aise, parce qu'il y a moyen de neutraliser les gens et mettre en sécurité ce qu'on appelle en termes classiques la perspective sécuritaire. C'est ça qui manque. Et tous ces gens-là, vous connaissez le général-major, vous connaissez d'ailleurs, en passage, je dis merci et félicitations au gouverneur Paluku qui essaie de rassurer la population et à l'armée qui se réveille. Mais c'est toujours l'armée, c'est un peu comme les pompiers qui arrivent quand le feu est déjà dans la maison. Mais pour éviter qu'il y ait la maison là, il y a des garde-fous que moi je donne beaucoup d'importance à ce qu'on a fait. Parce que l'ANER, les services de sécurité sont collés au quatrième pouvoir, qui est la presse et la désinformation. Pas de rumeurs comme il dit là.
Alors c'est depuis toujours qu'on a formulé cette recommandation à l'endroit du gouvernement pour qu'il puisse doter les services de sécurité de moyens suffisants, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse opérer dans ces zones de combat. Et donc vous vous rendez compte aujourd'hui qu'en dépit de toutes ces recommandations qui ont été formulées à l'endroit du gouvernement, on n'a jamais donné ces moyens à ces services de sécurité.
Mais je pense que si le parti est mis, il ne faut pas. Il y a un ministre de l'Intérieur qui a sa charge la sécurité. Il faut rappeler, même en Europe, j'étais le 22 avril à l'aéroport de Zaventem quand ça a brûlé. Mais notre aéroport ici de Njili, c'est bien sécurisé par rapport à Zaventem. Je crois que maintenant ils vont le faire. Pourtant, c'était la capitale de l'Union européenne. Donc, il faut un événement, une occasion pour que l'autorité puisse réajuster les tirs.
Mais les événements se sont succédés depuis plus de 2 ans. Il y a un expert en question sécuritaire qui a affirmé dans cette émission la semaine dernière qu'on n'a jamais percé les mystères autour des ADF. Au vu de ces nouveaux massacres, ne peut-on pas lui donner raison?
Non, je pense que je peux balancer cela du fait que combien de fois on n'arrête pas ici à la cité des gens qui opèrent sous l'uniforme des militaires. Combien de fois? On ne sait pas les contrôler à tout moment. Et quand ils voient les vrais militaires passer, ils s'enfuient. Alors vous allez dire que tous ces gens sont des militaires? Non. Alors, même à Bénin, il faut vraiment des gens outillés, qui ne pas ceux que je vois parfois. À moins d'occasion, ils sortent la carte que je suis de la nerf. Mais non, des gens vraiment discrets, formés discrètement, ils peuvent en trois, mais il y a un des trois. Je sais faire une expertise, et sans fausse modestie, j'en suis expert. En 3 mois, on met ces gens hors état de nuit. Mais il faut donner les moyens conséquents. Si on ne donne pas les moyens, bon, vous voyez.
Monsieur Yumbu, jusqu'à aujourd'hui, on continue, lorsqu'on qualifie les ADF, on parle des présumés ADF. Cela veut dire que même au sein des FARDC, on n'est pas certain qu'il s'agit des ADF. Donc on donnerait raison à cet expert en question de sécurité qui estime que on se bat contre un ennemi qu'on ne connaît pas.
Non, ça c'est du point de vue du droit. Je suis juriste consul aussi. Donc du point de vue du droit, vous n'avez pas encore fait juger quelqu'un. Comment vous allez prétendre qu'il est déjà condamné? On dit présumé en attendant qu'il y ait un jugement pour se l'arrêter. Lorsque vous perdez quelque chose, on dit chose perdue. Quand vous n'avez pas quelqu'un en main et devant une juridiction appropriée, on dit présumé.
C'est aussi étonnant le fait que depuis tout ce temps, on n'a jamais attrapé un véritable ADF.
Bon, peut-être.
C'est quand même étonnant, n'est-ce pas?
Non, c'est, je crois que.
Parce que s'ils avaient été arrêtés, ils auraient été jugés, su que c'est des véritables ADF.
À partir du moment. Celui qui parle de présumé ADF, c'est-à-dire que quelque part, il a arrêté un certain ADF pour que maintenant il puisse dire la conformité avec ce qu'il a déjà eu comme image, ce stéréotype, et dire voilà, maintenant celui-là qui opère avec la machine, ça doit être tellement ADF. Sinon, c'est lui qui devient fictif.
Merci, monsieur Amissi Kalonga. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Goma, au Nord Kivu.
William Runangiza, de Goma, province du Nord Kivu. C'est un énième massacre de Blérin qui vient confirmer la situation réelle du Grand Nord, contrairement aux dernières allégations fantaisistes installées par le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense. Est inacceptable. Parler de la négligence des FARDC de la MONUSCO, je pense que ce n'est pas le cas. Mais c'est plutôt un problème de fond, dont la responsabilité est partagée entre le gouvernement, les FARDC et la MONUSCO. Car le premier est trop sûr de lui-même en matière de sécurisation du territoire national, le second est embarrassé par les modes opératoires des guérillas appliqués par les rebelles, et le troisième affiche une certaine réticence quant à l'application des résolutions de l'ONU à sa possession. Pour trouver une issue face à ce mal, il faut à la fois une coordination d'actions de parties engagées et une détection de facteurs endogènes et exogènes de ce malaise qui frappe les grands nord du pays et en particulier le territoire de Béni.
Oui, monsieur Amissi Kalonga.
Oui, parce que je n'ai pas bien suivi, il y avait problème de réseau. Si vous pouvez me résumer un peu.
Il dit c'est énième massacre de l'URE qui vient confirmer la situation réelle du Grand Nord, contrairement aux dernières allégations fantaisistes étalées par les gouverneurs du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense est inacceptable. Parler de la négligence, je pense que ce n'est pas le cas, mais c'est plutôt un problème de fond dont la responsabilité est partagée entre le gouvernement, les FARDC et la MONUSCO, car la première est trop sûre de lui-même en matière de la sécurisation du territoire national. Le second est embarrassé par les modes opératoires des guérillas appliqués par les rebelles. Les troisièmes affichent une certaine réticence quant à l'application des résolutions de l'ONU à sa possession.
Bon, en fait, à mon niveau, l'autorité provinciale séjourne chez nous ici au territoire de Bénin. Et par rapport à la situation, le chef est venu pour prendre la situation et il y aura des contacts à tous les niveaux, les chefs locaux, toutes les personnalités qui auront des informations précises. Mais pour nous, nous ne voulons pas affirmer qu'il y a eu négligence. Peut-être une faille d'un commandant ou quelqu'un, mais à notre niveau, c'est l'autorité qui est venue va donner à la fin de sa mission d'inspection, donner des orientations, des instructions et à tous les niveaux.
Et je crois l'autorité va se prononcer, va nous dire, va présenter la situation de la province par rapport à cette nébuleuse que nous vivons ici en territoire de Beni, que jusque-là, nous sommes en train de chercher à comprendre le présumé ADF Nalou, c'est quoi. Mais je crois que c'est vraiment une question qui nous dépasse. Nous continuons toujours à solliciter tout le monde de ne pas s'agiter. C'est une guerre asymétrique qui a beaucoup de réalités. Je crois que l'autorité prendra langue avec les commandements Sokola. Il y a eu des capturés chaque fois et nous allons comprendre les nationalités même des pays voisins qui se retrouvent dans ces capturés. On va vous les présenter. Et je crois, je me limite à notre niveau, je crois. Ce qui est arrivé, c'est vraiment regrettable. On vient de vivre une situation d'accalmie. Cette accalmie qui a vraiment duré au moins 2 mois, 3 mois, depuis le mois de janvier. Et même la population a apprécié. Je crois, si nous avons Maïmoya, Wita, Mavizi et Kassindi, des autres collectivités, il n'y a pas vraiment de problème.
Et
il y a vraiment de quoi à s'interroger.
Voilà, vous posez beaucoup de questions. Vous posez...
ADF,
Monsieur Amissi,
allô?
Oui, vous dites
que
vous posez beaucoup.
Est-ce qu'ils n'ont pas, comment ils trouvent cet arsenal militaire que nous avons? Nous constatons, ils ont vraiment de l'arsenal militaire, où est-ce qu'ils sont ravitaillés? Est-ce que les pays voisins ne sont pas dans ces coups? Parce que nous avons des communautés, toutes les communautés des pays voisins, et les populations de ces pays qui sont capturées. Et dernièrement, j'avais même étalé des corps des ADF Nalou au bureau du territoire. Nous avons des figures, il y a des Ougandais, il y a des citoyens de Rwandais, il y a toutes les... C'est une nébuleuse. C'est pourquoi, à notre niveau, nous demandons toujours à l'autorité provinciale, nationale, de voir cette situation au clair. Si on veut parler des accords entre pays... C'est vraiment une préoccupation, à notre niveau, dans la chefferie de Wataringa, par exemple. Chaque jour, on nous parle des infiltrations, ça il faut le dire, des infiltrations des gens qui viennent de l'Ouganda. Et cela nous inquiète beaucoup. Nous avons
Monsieur
des
Kalunda.
Problèmes. Et vous savez,
Monsieur Kalunda, vous posez une série de questions.
Problème.
Monsieur Kalunda, vous vous posez une question,
oui.
Une série de questions, vous dites que vous continuez à vous interroger, n'est-ce pas, sur les ADF, sur leur arsenal militaire, vous évoquez aussi les infiltrations au niveau de la frontière. N'est-ce pas une occasion de pouvoir renforcer les services de sécurité comme le propose Monsieur Joseph Yumbu et comme l'ont proposé beaucoup d'experts depuis toujours. Hein, ils ont toujours demandé que l'on puisse renforcer les services de sécurité. Vous ne pensez pas que l'occasion, elle est là pour que ce travail soit fait?
Oui, nous n'allons pas exclure ça. Le renforcement à moyen logistique, tout ça, l'autorité provinciale et nationale s'en occupe, mais c'est que nous, avec mes administrés, nous continuons à déplorer ce que nous sommes en train de vivre. Il n'y a qu'un seul point, et c'est le point qui est vraiment donc proche de ce pays Ouganda.
Merci, M. Kalunda.
Nous, vraiment, nous avons des difficultés. Est-ce que
Merci, Monsieur Amissi Kalunda. Je vais vous redonner la parole. Monsieur le révérend pasteur Gilbert Kambale, il y a une question qui vous adresse, elle vient de Dungu.
Crispin Aribou, territoire de Dungu, province de Routouélé. Objectivement parlant, Je crois qu'on ne peut pas taxer les FRDC de pure négligence pour se tenir mes drames survenus dans les localités de Minoba et de Michombe. Ce serait de l'ingratitude et aux efforts fournis, et surtout à l'égard du sacrifice suprême de ceux qui tombent au front contre les EDF. Aussi, je ne suis pas d'avis lorsqu'on semble les déculpabiliser totalement de ce qui est survenu, non loin de leur base de la sécurisation. C'est donc on peut réclamer sans excuses à nos FRDC et à la MONUSCO, n'est-ce pas la promptitude d'intervention qui ferait défaut au moindre signal d'alerte à se détenir l'ennemi au moins une fois à flagrant délit?
Oui, monsieur le révérend pasteur Kambalé.
Oui, merci beaucoup pour la question. J'aimerais dire à ce monsieur de Dungu que ce ne sont pas toutes les actions antécédentes que nous avons qualifiées de négligence. C'est un cas précis. Et si la société civile l'a dit, et je le confirme encore par mon collègue, président du territoire de Beni, et d'autres acteurs, c'est pour dire pour ce cas précis, et nous continuons à insister, qu'il y ait des enquêtes quand même, parce que vous savez que la MONUSCO est ici pour, parmi ses priorités, c'est de protéger la population civile. Et si leur travail c'est de protéger la population civile, et on continue à les massacrer, alors qu'est-ce qu'ils font par rapport à cette tâche qui leur est révolue? Et donc nous insistons pour dire que la MONUSCO doit fournir des efforts. Et en second lieu, nous reconnaissons que la MONUSCO vient en appui. Donc c'est notre armée qui doit faire d'abord ce travail. Et donc nous disons que nous ne minimisons pas les efforts fournis par les FARDC, je l'ai dit d'ailleurs avant. Et donc pour dire pour ce point, ce qu'il faudrait absolument qu'il y ait quand même des enquêtes, parce que ça pourra quand même élucider qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce que je vous ai dit dans mon introduction qu'il y avait des rumeurs, et la population parfois dit des choses, et parfois on ne les prend pas en compte, et c'est cela qui fait que les gens meurent, parce que les gens sont exaspérés par ces mots à répétition. Et j'aimerais revenir à un autre fait qui cause beaucoup de problèmes, c'est par rapport aux conséquences collatérales, par exemple, de tout ce qui se passe. Vous savez que, comme on l'a attaqué hier, on avoisine 40 morts avec, si on met le nombre déjà qui était kidnappé, 72 heures avant, et donc on avoisine ces chiffres-là. Déplacement massif des populations, il y a une paupérisation, n'est-ce pas, extrême pour cette même population. Mais également, vous devez savoir que cette même population n'a pas jusque-là d'aide humanitaire conséquente pour résoudre leurs problèmes. Donc, nous estimons que pour ce fait précis, nous voulons souligner donc ce point-là par rapport à ce que je viens de dire qui concerne les FRDC et la MONUSCO.
Monsieur le révérend pasteur Gilbert Kambalé, depuis des ans, les populations sont massacrées. Vous avez parlé dans votre communiqué de plus de 1000 personnes qui ont déjà été attaquées. Alors, qu'est-ce qui a été fait jusque-là du côté des FRDC et de la société civile dans les collaborations, n'est-ce pas, pour prévenir ce genre de massacres? Est-ce que vous avez tenté de mettre en place une sorte de courroie de transmission, en fait, une sorte de mécanisme de communication qui peut permettre, n'est-ce pas, à la population, dès qu'elle se sent en insécurité, de lancer l'alerte? Est-ce que vous avez tenté avec ce genre de stratégie?
Oui, je pense qu'il y a la coopération civilo-militaire, mais il y a aussi le dialogue social entre les FARDC et la population civile. Et dernièrement, d'ailleurs, les étudiants de l'IOR ont organisé une activité dans ce sens. Donc cela existe. Mais là où ça dépasse l'attendement de la population, c'est par rapport à ces massacres qui continuent. Et merci. La population ne croit plus à certains discours que les gens peuvent prononcer maintenant. Ce que la population veut, c'est le concrétisme, c'est-à-dire on doit aller vers l'ennemi et exterminer l'ennemi. C'est ce qui va convaincre la population.
Merci, sinon, monsieur Kambalé.
Ces discours-là
sont des discours creux qui n'auront pas d'effet. Hein.
Merci, M. Kambalé. M. Joseph Yumbu, il y a une question qui vous est aussi adressée.
Robert Lamet de Bukavu, ces énièmes massacres observés récemment à Beni sont déplorables. Je ne pense pas que l'on puisse y mettre fin tant que le gouvernement ne songera pas encore à 1. Monter un véritable plan de défense nationale pour Beni et l'Est de la RDC en général. 2. Réaliser des programmes d'EDR en RDC. 3. Rapatrier les rebelles FDLR au Rwanda. Et 4. Neutraliser ou réduire sensiblement la capacité de nuisance des ADF Nalu à Beni.
Oui, monsieur Joseph Kouyumbu.
Merci. La question est pertinente. En matière de prospective sécuritaire, on ne sait pas tout dire par la voie des ondes. Je vous assure que vous parlez à un spécialiste qui a fait ses preuves dans ces pays ici. Et je vous exhorte à prendre contact avec le gouverneur. Le gouverneur peut passer par le CAPI.
Un plan général de défense.
Un plan général. Non, tout ça, on va trop loin.
Tout l'est du pays.
On va trop loin. C'est l'occasion pour certains.
Un plan général de sécurisation.
Ce n'est pas nécessaire, parce que le plan est déjà là.
Qu'est-ce qui est nécessaire?
Le service est déjà structuré.
C'est quoi la solution?
La solution est simple. Il y a des gens qui sont déjà formés dans le service de sécurité. Il n'est simplement question de bien les utiliser. Je dis en 3 mois. Voilà, je vous donne un exemple bête. J'ai étudié, discuté avec les experts européens. Un plan bête, écoutez-moi bien. En 3 mois, vous mettez des barbelés le long de la frontière. Israël l'a fait, tout le monde le fait. Vous laissez simplement un passage où la DGM peut contrôler.
Le contexte israélien n'est pas le même que celui de la RDC.
Mais pourquoi n'est pas le même? Parce qu'ils sont terrorisés tous les jours par les autres. Nous aussi, tous les jours, nous sommes terrorisés par les amis d'en face. Alors, il faut laisser faciliter le travail.
Donc, fermer les frontières.
Vous mettez là où
sécuriser les frontières.
Là où il y aurait infiltration, vous, mais ça ne coûte rien.
Sécuriser les
d'ailleurs,
frontières.
D'ailleurs, quand vous faites ces barbelés, vos entreprises ici ont de quoi gagner. Alors, vous laissez un passage où la DGMP aisément, puisqu'il y a pénurie de gens, où la DGMP simplement contrôler. Ça, c'est un. De deux, ainsi, ceux qui sont déjà pris ici à l'intérieur, mais c'est facile à les savoir. Je peux vous donner un exemple, mais j'en ai passé le temps pour vous dire ce que j'ai déjà expérimenté en ce domaine là-bas. Je suis prêt à donner ça. Et je vous dis, en 3 mois, vous m'écoutez bien, si le gouvernement me suit, il n'a pas passé par là. En 3 mois, j'ai dit 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est fini parce que j'ai compacté avec Beni. J'ai déjà dit envoyer personnellement 830 kilos de médicaments lorsqu'ils étaient en difficulté. Je ne suis pas pourtant pas de Beni. Mais je suis un patriote. Je voudrais intervenir pour que mon frère retienne celui qui intervient ici. Il est prêt à donner une solution gratuitement. Et en 3 mois, Beni n'a pas de problème.
En conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission, donc ce que vous proposez, c'est qu'il faut renforcer le service de sécurité et sécuriser les
frontières. Non seulement, je recommande de lire mon dernier ouvrage, Expertise, la nécessité d'un dialogue comme un don de la paix profonde, parce que je dirige une ASBL depuis 2012 en Belgique qui s'appelle Don de la paix profonde dans les pays des Grands Lacs. Donc, je maîtrise suffisamment ce qu'on doit pouvoir faire là-bas. Mais il faut que vous puissiez lire aussi. Vous ne lisez pas, comment voulez-vous qu'on puisse vous aider?
Merci, monsieur Bernard Amissi Kalonga. Que faut-il pour sécuriser les populations des Beni? Que faut-il pour finalement mettre fin définitivement à cette série de massacres?
Oui, en fait, c'est à notre niveau. Nous notons des efforts qui sont vraiment déployés. Et je sais que ce qui est arrivé va nous aider à comprendre davantage, à peaufiner des véritables stratégies pour mettre fin à cette histoire. Je crois, vous avez même, on a compris, même la population a apprécié le travail, à partir des Maïmois jusqu'à...
Merci, nous sommes presque à la fin de l'émission. Monsieur le révérend Gilbert Kambalé, que faut-il pour trouver une solution finalement à ces problèmes d'insécurité à Beni?
Je pense qu'il faut vraiment faire une étude en profondeur par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à ces jours.
Une étude en profondeur.
Donc le ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, chef d'état-major.
Merci, nous avons compris, il faut une étude en profondeur. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Matundu qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Hirung, Kelly Kouté-Berry, Franklin Luchaka, sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon suite du programme sur Radio Capi.